Continue à sa route en fredonnant un petit air qu'elle chantait faux. Néanmoins, quand elle s'est rendue compte que le bruit de l'écureuil est loin de décroître, s'intensifiait, se ficha. Il y eut un boucan assourdissant dans les bois. Arbres et arbustes furent secoués comme si quelque créature sauvage, bien plus imposante qu'un écureuil, saccageait l'entremêle de branches du sous-bois. Elle imaginait déjà les cougars en furie et des loups enragés. Elle ne portait aucune arme susceptible de chasser la bête et ne pouvait pas non plus s'enfuir en courant, ses pieds semblaient votre ce gigantesque bête de par la croisée d'écureuil, ce monstre qui va surgir, c'est justement le cavalier et son cheval. Voilà. Donc là aussi, on voit dans ce début un personnage qui finalement n'a pas l'air d'une vraie héroïne, car Gann, c'est une jeune fille comme les autres, Kristen Brittain.
Effectivement, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le processus d'évolution de cette jeune fille qui s'enfuit de son école et qui voyage et qui progressivement grandit et se transforme en héros. Et elle continue, même si elle a peur, alors on ne sait pas si c'est de la folie ou du courage, mais en tout cas, elle continue.
Cette rencontre, lorsqu'on voit ce cavalier avec deux flèches, le titre du roman, c'est Cavalier vert, et ça démarre par la mort d'un cavalier vert. Est-ce que c'est pour interroger le lecteur sur qu'est-ce que ce cavalier vert qui meurt, qui va ressusciter? Est-ce que vous ne
started with Kerrigan and just imagined Kenyon her into lots of trouble. That was my basic outline. And as the story goes, it naturally deepens, and so does the world.
En fait, c'est exactement comme Kerrigan, je ne savais absolument pas pourquoi je mettais les pieds. Je savais juste que je voulais qu'elle, elle ait plein d'ennuis. C'était mon idée principale. Et au fur et à mesure que j'écris l'histoire, elle est devenue de plus en plus intéressante. Le monde s'est développé. Je suis allée plus loin dans les recherches et la magie aussi s'est développée. Donc, par exemple, effectivement, la magie qui peut permettre éventuellement de voyager dans le temps. Mais ce n'est pas forcément prévu au début.
Petit extrait. Le chapitre s'appelle « Le futur venu du passé ». Nous sommes déjà dans le tome 2. On ne lira évidemment pas tout le chapitre pour ne pas trop en rêver. Kerrigan suivit les embryos de le roi Jeneveston, presque ensoleillé, qui créa un contraste stupéfiant avec l'obscurité dans laquelle elle était plongée, et avec la journée orageuse qu'elle avait laissée quelque part à des âges de là dans le futur. Un garde referma la porte après leur passage et Kerrigan découvrit une salle simple au plafond bas. Elle était dépourvue de tout ornement, à l'exception là encore de bannières de guerre et de boucliers. Les fenêtres de l'enfer cathédrale étaient grandes ouvertes et le doux air estival entrait harmonieusement, dissipant la morosité des moments passés dans les couloirs. On entendait la cadence des pas et les cris d'un sergent qui supervisait les exercices à l'extérieur. Une longue table en bois grossière montée trônait au centre de la pièce, couverte d'un tas de rouleaux de parchemin. Gabriel se demanda quel trésor d'information elle pouvait bien recéder. Et un simple regard lui assura qu'elle ne le saurait jamais, car tout s'était écrit en langue ancienne. Les lambrios faisaient des 100 pas, et le roi la regardait les bras croisés sur sa poitrine. Ils étaient engagés dans une intense discussion, mais à quel propos? Car ils éprouvaient de grandes difficultés à échouer leurs paroles, car ils employaient des expressions archaïques. Elle parvint progressivement à comprendre quelques mots, puis finalement des phrases entières. Nos informations sont fiables, disait-il avec insistance. Ils auront avec moi en avant. Ce sont des rumeurs de leur monde, peut croire les ragots. Vivait bien un bruit de gorge frustré, elle peuplait la pièce de sa prestance, tandis qu'elle la parcourait en long, en large et en pas vif. Elle s'arrêta soudain pour regarder par la fenêtre. Ce sont plus que des rumeurs. Ils souhaitent me rencontrer. Non. La réaction du roi fut féroce et Kerrigan eut de la peur dans son regard. Je ne le permettrai pas. Il se tourna vers lui, et lorsqu'elle reprit la parole, son ton était plus grave, plus intense. Huit cavaliers ont péri en m'apportant cette information. Combien de temps encore avant d'avoir une autre chance semblable à celle-ci? Une chance qui ne se renouvellera pas, peut-être jamais. Combien d'enfants nés durant la guerre ne connaîtront jamais la paix en grandissant? Combien d'enfants encore qui ne connaîtront pas leurs parents, car ils ont péri sur le champ de bataille? Les camps débordent d'orphelins, mais je suppose que quand ils seront grands, ils alimenteront les flèches et seront capables de lever une épée comme Mordavan, comme moi. Je veux que cesse la guerre autant que toi, dit le roi d'Adonbrou. Vous voulez la voir cesser, hein? Eh bien, voilà un moyen d'y parvenir. Alors, je n'ai pas évidemment donné le nom parce qu'on ne va pas spoiler le roman, mais il y a un retournement dans le roman et un personnage qui était un des ennemis du royaume qui se retourne. Voilà, il y a des surprises. Et encore une fois, sans en révéler trop, cette scène qui se déroule en fait dans un passé lointain est une scène qui donne à Kerrigan des idées pour la façon dont elle peut elle-même agir. Dans son temps présent. Voilà, on en restera là. Quand justement vous faites ces va-et-vient entre le présent combat Kerrigan contre les ennemis du royaume et un passé ancien en partie mythologique, en partie historique, est-ce que quelque part c'est aussi la transmission que vous mettez au centre de votre roman, Christelle Boutet? fait son rôle. Et on verra ça quand Daniel rencontrera. Voyez, voilà, je crois que c'était le terme qui n'était pas clair.
Ça, mais maintenant que vous le mentionnez, ça me paraît évident effectivement que la transmission est importante et qu'elle traverse le roman.
Autre élément, l'histoire d'amour. L'histoire d'amour dans cette affaire, alors, une romance quasiment, mais une romance difficile. Une romance impossible, on ne va pas non plus révéler trop de choses. Et quelque part, Carrigan est partagé entre eux. C'est une jeune fille. Son romantisme, mais aussi son réalisme. Cette tension nerveuse qui parcourt les principaux personnages, leur amour qui ne peut pas, pour des raisons politiques, se réaliser, est-ce que c'est une façon pour vous que cette Bretagne, dans cette saga pleine de bruit, de fureur, de rebondissement, de magie, de violence, de peur, de menace sur le royaume, est-ce que ce n'est pas une façon d'humaniser vos personnages et votre histoire?
I believe it is. One of the things that fascinates me and keeps me writing is the characters and all their problems. I really enjoy getting into the middle of their lives and making them miserable. I have fun with making people miserable. And I think one of the primary things is having fun with writing, or else I'd be bored and the reader would be bored. I think it's very important that people can relate to having difficult love lives and maybe not having the person they want in their own lives. And, it just makes the story work better.
Effectivement, en fait, ce qui me fascine et qui me permet de vouloir toujours écrire plus, ce sont les personnages et leurs problèmes. Alors moi, j'adore les rendre super malheureux. Je trouve ça trop drôle. Je leur fais des misères beaucoup, beaucoup. Mais du coup, je m'amuse et à mon avis, c'est aussi ce qui permet que je ne m'ennuie pas et que du coup, le lecteur ne s'ennuie pas non plus. Pour moi, c'est également important que le lecteur puisse s'identifier au personnage et c'est vrai que dans la vraie vie, on n'est pas toujours avec la personne avec qui on voudrait être. C'est pas toujours possible, c'est bien souvent difficile. Donc, vraiment, ça permet aux gens de s'identifier au personnage.
Un autre petit extrait, on est beaucoup plus loin dans le roman, c'est pour ça que ça ne sera pas une scène d'action avec des personnages qu'on découvre, mais ça sera plus sur les sentiments et le regard que porte Christian Brittain sur la société de ces romans, mais aussi évidemment sur la nôtre. Une fois que Laurine eut emporté le repas auquel Carrigan avait appelé,
Je pense qu'on peut voir ça comme un commentaire concernant le sexisme. Et on doit avoir travaillé comme garde des parcs nationaux aux États-Unis. Je me suis aussi beaucoup intéressée au 19e siècle et notamment au fait que les femmes ont dû réclamer le droit de vote ou que à cette époque, elles ne pouvaient être propriétaires de terres. Si jamais elles divorçaient, on leur enlevait tout. Elles n'avaient plus rien, ni enfants, ni possession. Si leur mari mourait, c'était le plus proche homme de la famille qui héritait de tout. Et du coup, je pense que ça a beaucoup nourri mes sentiments envers le sexisme qui sont plutôt négatifs et que ça se ressent dans l'écriture. fondement de toute cette histoire, en fait, c'est ses efforts pour justement faire tomber les barrières, les limites de la société. C'est vraiment ça qui mène toute l'histoire.
Ce qui paraît aussi intéressant dans Cavalier Vert, cette série, c'est la mise en scène des nobles. Ce qui me frappait, nous en parlions ce matin avec notre français Stéphane Plateau, c'est que beaucoup traditionnellement dans la fantasy oublient le peuple complètement. Or, depuis quelques temps, et on le constate dans la fantasy française, mais aussi dans des romans américains comme ceux de Christian Bretagne, le peuple existe, le peuple est présent, et certaines personnes du peuple portent des valeurs, des messages et des engagements. Est-ce que c'est une provocation de Christian Bretagne de ne pas couper les élites et les nobles de la société dans laquelle ils évoluent? Je pense à une scène pour bien expliquer ce que je voulais dire. Je pense en particulier, on va pas trop spoiler là aussi, mais je pense à une scène où des paysans viennent demander justice au roi face à des crimes qui ont été commis contre eux par un noble important de cette société. Et sans trop en révéler, le roi va réagir avec une vraie brutalité, va prendre des sanctions, y compris plus importantes que ce que les paysans auraient attendu. Est-ce que pour vous,
in the case of this king, he, that is his justice, that is the kind of person he is, that he rules for all the people, he puts the people in the country before himself, and he often wonders through the course of the books, you know, or he thinks about, he could be a different kind of king, and what would happen if there was a different kind of king, and how would that other king treat the people, and is this the type of government that should go on and keep the people, be for the good of the people, or should there be change? But it has a lot to do with the character of the king.
Alors, en fait, c'est vraiment parce que ce roi-là est obsédé par la justice. Pour lui, ce qui compte le plus, c'est la justice. Pour lui, il est le roi de tout le monde, pas juste des nobles. Et souvent, il se pose la question et il se demande s'il pourrait être un autre type de roi. Et si un autre type de roi régnait sur ce royaume, comment il traiterait le peuple? Est-ce qu'il le traiterait bien? Est-ce que les conditions changeraient? Mais c'est vraiment une question de personnalité. Lui, ce qui importe, c'est vraiment la justice.
Je plaisanterais en disant que votre roi, à un moment donné, il m'a un peu étonné. Il est un peu atypique par rapport au roi habituel de la fantasy qui ne se pose aucune question sur l'origine de leur pouvoir, sur la légitimité de leur pouvoir et sur ce que pourrait être leur pouvoir entre de mauvaises mains, donc y compris la fonction dynastique, et que finalement, ce roi est quasi un roi républicain.
Yes, and he was not expecting to become a king as well. And he has been tolerant of protesters. Basically, we're in a more democratic kind of society.
Alors, en fait, déjà, il ne s'attendait pas à être roi. Donc, forcément, déjà, ça change tout. Et il est assez tolérant face à des gens qui protestent contre certains aspects de la société. Il a tendance à les écouter plutôt que de les rejeter. Mais il ne s'attendait pas à être roi en même temps.
On a parlé de beaucoup de choses déjà. On commence à brosser un petit peu, mais on a peu parlé encore de thèmes importants dans le livre. La magie, j'en dirai un mot après, et les elfes quand même. Les elfes, ces créatures un peu mystérieuses qui vivent des sous-mangeurs, je les assigne un peu les elfes, ça n'est pas vraiment. Ces créatures, ces élétiens, ils sont des sortes mortels quelque part, puisque les elfes. Je pense qu'ils ont une durée de vie extrêmement longue et du coup, ils ont un rapport à la société et à la
tous ces Égyptiens qui sont effectivement immortels, je voulais effectivement faire un contraste entre ces immortels qui ont forcément une personnalité très différente des mortels, de par le fait que du coup ils vivent extrêmement longtemps. Et moi, si je les aime vraiment ces personnages, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est des gentils. On ne sait pas s'ils n'ont pas des idées à eux, enfin, essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. On ne sait pas trop d'où ils viennent. On sait juste qu'ils sont différents du coup des mortels parce qu'on suit bien plus souvent le point de vue des mortels. Et je pense que le mot alien, donc étranger, convient très bien. Ces Égyptiens sont des étrangers, ils sont vraiment différents des mortels.
Autre élément dans vos romans, on n'en a pas parlé jusque-là parce que j'étais très concentré sur les personnages. Arthur Force, comme disent souvent nos amis anglo-saxons, la magie. La magie est vraiment quelque chose qui compte dans vos romans. Elle est très présente. Elle a un rôle important dans l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose d'intangible. Ce n'est pas un Deus ex machina permanent dont vous abuseriez. Comment vous avez réfléchi à ce problème? Comment vous avez construit cet équilibre entre la magie, son utilisation et le rôle des êtres humains? En gros, entre la destinée et la liberté.
Well, first of all, I want the magic to be born from nature, you know, part of nature, just like the wind, the rain, the sun. But it's also another metaphor for how we humans tend to use up natural resources and how some classes of people can. I'm thinking more of people who can hog all the resources and deprive the rest of the world of what's left, and that people will fight wars for it.
Alors effectivement, pour moi, la magie d'abord elle vient de la nature. Cette magie-là, pour moi, me fait penser au vent, à la pluie ou au soleil, mais c'est aussi une métaphore pour le fait que bien des gens se permettent. Les humains se permettent d'utiliser jusqu'au bout les ressources naturelles qui nous entourent. Ces gens-là utilisent les ressources naturelles, en privent le reste du monde et ça peut mener à la guerre.
Une autre question que j'aimerais vous poser, parce que on n'est pas à parler de complexité mais de richesse. C'est vraiment une série de fantaisies, je l'ai dit au début, où il y a une extraordinaire ampleur. Personnel, y compris dans le roman, dans la série, vous avez cassé le livre entier
suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour ce super événement que sont les imaginables.
C'est gentil. Nous, on est ravis de vous accueillir parmi cette délégation américaine. Et je pense que dans les années à venir, on vous en tout cas, si vous avez envie, nous, on aura envie de vous accueillir. Chapitre, en suivant le chat. On arrive à la fin de cet entretien, on a brassé quand même déjà beaucoup de choses. Évidemment, vous n'avez pas tout compris, c'est normal, vous n'allez quand même pas vous raconter l'histoire. Je pense que, j'espère en tout cas, que écouter quelques passages et que les réponses de Christelle vous a donné envie. Si ce n'est pas vous déjà fait, vous plongez dans son histoire, vous immergez dans son histoire et qui approche, ça va vraiment être un super moment pour découvrir les 5 premiers volumes en attendant le 6e. Vous allez voir, la question, je lâche des séries. J'avais bien lu au moins le volume 1 pour animer un débat, mais j'ai lu le 2e, le 3e, le 4e, j'ai lu les 5. Vraiment, avec passion. Et même des petites choses nous amusent et nous touchent. Et donc, on va conclure sur une petite chose délicate avant de se quitter, ou amusante. Et on va faire un peu de pétain. En fait, on va plutôt obliger Christine Bretagne à nous faire peut-être un terrible vœu. En suivant le chat, le souffle de corbeau fit frémir les moustaches des nuages et le félin posa sa patte sur les naseaux des talons qui redressa brusquement la tête et ses brouilles. Chacun semblait piqué au vif par la présence de l'autre. Bon, maintenant, vous avez fait les présentations, ne se passe-t-il. Nuage se leva en agitant la queue et s'éloigna avec un air de profond dédain. Enfin, le genre sur la ligne, quitta la piste pour s'engager dans les broussailles qui furent à gauche. Se remémorant la fois où les armes et elle avaient été guidées vers l'entrée secrète des tombeaux par chaton fantôme, Carrigan révolte les corbeaux. Suivre un chat était en soi ridicule, mais que pouvait-elle faire d'autre? Peut-être sauva-t-elle dans son perversité que ce ne sont pas les dieux qui dominent l'univers, mais les chats. Des chats jouant avec les humains, comme un marionnettiste avec son pantin, chaton fantôme, par exemple, se débrouillait toujours pour lui soutirer les friandises et accaparer une bonne partie de son lit. Est-ce que c'est autobiographique, Christine Bretagne?
I'm owned by cat. J'ai un chat qui est mon propriétaire.
Ça confirme bien l'adage selon quoi le chat n'habite pas chez nous, mais nous habitons chez le chat. Vous aimez les animaux, vous savez déjà que les chevaux, en tout cas au moins dans fiction, est-ce que vous êtes derrière pour Christine Bretagne?
I was a horse crazy girl when I was younger. I have ridden in my years. I still love and admire horses, however.
En fait, j'étais vraiment folle des chevaux quand j'étais jeune.